France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des initiatives positives, des projets bons pour la planète ou pour les humains, ou pour les deux. Les carnets s'intéressent cette semaine au département des Deux-Sèvres, du côté de Niort. Et aujourd'hui, nous parlons chaussures. Des chaussures made in France, made in Poitou même. La belle histoire d'une entreprise qui a su élargir sa clientèle. Ensuite, on se plongera dans le magazine Village, notre partenaire. Dans le nouveau numéro, un article sur la bifurcation professionnelle. Changer de métier, changer de vie, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre, mais qui souvent est guidé par une quête de sens. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Ce sont au départ des chaussures de travail conçues pour être solides et durables, des chaussures de travailleurs de la terre et de marchands de bestiaux, mais qui sont aussi aujourd'hui des modèles dans l'air du temps, des chaussures à la mode, dont le mérite surtout est d'être fabriquées en France, en Gâtine-Poitevine. Les chaussures de Gâtine, entreprise qui existe depuis 1957, qui a failli disparaître et qui a été reprise en 2021 par deux femmes. L'une des deux est mon invitée. Bonjour Clémence Nerbusson.
Bonjour.
Co-gérante des chaussures de Gâtine, vous êtes à Pompère, près de Parthenay. Donc, vous fabriquez des pompes à Pompère, c'est absolument superbe. Vous êtes vous-même originaire du coin, hein, Clémence. À quel point cette manufacture de chaussures fait-elle partie de l'histoire locale ?
Alors, la manufacture, elle est née donc à une époque, les années 50, où il y avait encore des fabricants de chaussures à peu près partout sur le territoire. Mais elle est née ici parce que il y a un très gros marché aux bestiaux à Parthenay, qui existe encore, mais qui a connu ses grandes heures plutôt dans ces décennies-là. Et l'idée, c'était de fabriquer des chaussures pour ces marchands de bestiaux qui venaient ici. Et au passage, on leur vendait des chaussures fabriquées sur le territoire.
Donc, ce sont des chaussures conçues pour être solides, avant tout.
Ah oui, oui, oui. Et par la méthode de fabrication, c'est-à-dire qu'on a un montage cousu qui permet du coup la réparabilité et aussi la durabilité et aussi la qualité des matériaux, c'est-à-dire qu'on choisit des cuirs épais qui sont assez gras pour pouvoir tenir dans le temps. Et voilà.
Alors, quel était le contexte quand vous avez repris cette entreprise en 2021 et comment se porte-t-elle aujourd'hui?
Alors, en 2021, on reprend une entreprise qui est en liquidation depuis quelques mois, donc suite notamment au confinement. C'était une entreprise familiale qui a toujours été dans la même famille. Et voilà, la conjonction confinement et puis fin de carrière de ces gérants a amené à cette liquidation. Nous, on fait le choix de reprendre et c'est avant tout une très belle aventure humaine. C'est-à-dire qu'on a une équipe vraiment géniale sur qui on peut compter et avec qui on vit de très bons moments. Et puis, c'est aussi une belle aventure locale, c'est-à-dire qu'on essaye d'habiter un maximum notre territoire et d'abord en étant sur place, en faisant partie, mais aussi en essayant de créer des événements qui sont en lien avec les associations locales ou en tout cas les habitants de ce territoire.
Et je vous parlais de l'état de santé de l'entreprise. Vous êtes optimiste aujourd'hui ?
Ah ben oui, sinon on serait pas là. On évolue dans un contexte qui n'est pas simple, voilà. Mais oui, on est optimiste et on croit en notre produit, en la qualité du savoir-faire, en la qualité des matériaux et du coup. Oui, on est optimiste sur le fait que ça fonctionne. Déjà, quand on a repris, on était 5 il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on est 8 et on a espoir que ça continue. En tout cas, on met tout en œuvre pour.
Combien de paires de chaussures sortent chaque jour de votre atelier ?
Alors, on est autour de 25-26 paires par jour.
Ouais, donc c'est un bon rythme de croisière ?
C'est pas mal, ouais. Alors après, c'est proportionné à la taille de l'atelier. Et puis, notre méthode de fabrication, c'est une méthode qui demande du temps et du savoir-faire. C'est aussi ça qui amène la qualité. On est contents de nous, en tout cas.
On parlait des chaussures de travail tout à l'heure. Ça représente aujourd'hui quelle proportion de votre clientèle ?
Alors, on estime à environ la moitié Et cet ancrage, on a vraiment envie de le maintenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de devenir que des chaussures mode. Le lien avec les agriculteurs et les clients originaux de Gâtine, il est vraiment très important pour nous. Et donc, en fonction des modèles, on estime aujourd'hui à peu près la moitié de nos clients qui sont des clients agricoles.
Vous ne voulez pas faire que des chaussures mode, dites-vous, parce que vous êtes aussi à la mode. Hein. Vous vendez notamment des chaussures de type derby qui sont tout à fait tendance. C'est intéressant, hein, cette double clientèle, si j'ose dire.
Oui, alors c'est pas toujours simple à percevoir, mais oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire que nous, ça nous pousse et sur nos qualités de finition d'avoir des produits un peu plus à la mode, et en même temps, on est obligé de maintenir notre qualité de matériaux pour nos clients qui vont les maltraiter, parce que oui, des chaussures, quand elles sont dans le purin pour l'élevage, quand elles sont dans la terre, quand elles sont dans la boue, voire dans la neige pour certaines régions de France, eh ben, elles ont besoin de résister. Quoi. Donc voilà, on est obligé de pousser toutes les qualités de nos chaussures pour répondre à ces clientèles différentes.
Et quels sont les modèles qui marchent le mieux auprès des clientèles urbaines ?
Alors, c'est le modèle qui, chez nous, s'appelle le Megève, qui est en effet un derby tyrolien. À l'origine, c'est donc une chaussure de travail et qui, aujourd'hui, est un produit, oui, particulièrement à la mode. Alors après, ça pourra évoluer. On a aussi un derby beaucoup plus classique qui s'appelle le Athènes, qui fonctionne bien. Et voilà.
Tant mieux, non, quand le Made in France est à la mode.
Ah ben oui, ouais. Très bien.
Côté prix, ça donne des paires de chaussures entre 220 et 300 euros. C'est cher, mais on s'y retrouve en durée de vie de la paire de chaussures.
Ah oui, alors on a régulièrement, j'ai encore eu un message sur Facebook hier d'un monsieur qui m'a envoyé sa paire de chaussures en disant elles ont 20 ans en 2026. Voilà, ah ouais. Alors elles ne durent pas toutes 20 ans. Tout dépend de comment on les entretient et voilà, mais... Oui, on a des durées de vie de chaussures qui sont assez longues, des durées de vie de 10 ans, on l'entend très régulièrement. Donc voilà, c'est vrai que quand on ramène à l'usage, le prix il devient plus abordable.
Et qu'est-ce qui fait leur singularité justement à ces chaussures ? Quelles sont leurs particularités ?
Alors c'est ce qu'on appelle le montage knep, qui est un montage cousu, qui est assez simple, mais qui du coup a toute sa solidité. Et ce montage, il a toujours existé dans notre atelier, et on est un des tout derniers ateliers historiques à ne travailler que ce type de montage. Et voilà. Et en plus, la particularité, c'est qu'on fait deux coutures pour amener un deuxième niveau de réparabilité et aussi de la solidité supplémentaire. Et ça, vraiment, c'est notre marque de fabrique, c'est ce qu'on sait faire, et c'est ce pourquoi on est équipé.
Vous êtes labellisé Origine France Garantie. Donc, toute la chaîne de production est localisée en France.
Oui. Alors, Origine France Garantie, c'est deux critères principaux. Le premier, c'est chaîne de production en France. Alors, nous, c'est facile, c'est tout dans notre atelier. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'on reçoit, ce sont des pots, des semelles, de la colle, du fil. Et voilà, c'est le savoir-faire de chacun qui amène à sortir des chaussures. Et l'autre impératif, c'est que plus de 50% de la valeur ajoutée du produit, donc du coût que va représenter sa fabrication, doit provenir de France. Et nous, sur les 6 modèles que nous avons, qui sont tous certifiés, parce que ce n'est pas l'entreprise qui est certifiée, c'est vraiment les modèles de chaussures. Sur tous ces modèles-là, on est sur des pourcentages qui sont entre 58 et 77% de mémoire.
C'est un très beau score.
Ben, on trouve ça bien, oui.
Les chaussures Gâtine, c'est à Pompère, dans les Deux-Sèvres. Merci beaucoup, Clémence Nerbusson.
Merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Une fonctionnaire devenue pâtissière en Normandie, un photographe de mode devenu producteur de cidre en Bretagne, deux ingénieurs agronomes devenus éleveurs de porcs dans le Rhône. Voici quelques exemples de changements de vie à lire dans Village. Bonjour Axel Puig.
Bonjour Dorothée.
En duplex depuis les studios de Ici Occitanie, vous êtes le rédacteur en chef du magazine Village et vous consacrez un dossier à ces gens qui ont bifurqué, qui ont changé de vie et de métier. Il y a de belles histoires bien sûr, mais il faut dire d'abord que la reconversion professionnelle, c'est un luxe réservé à certains et certaines.
Oui, c'est vrai, c'est une mise en garde intéressante à mettre en valeur. Donc c'est notamment le sociologue Antoine Dain qui nous l'a affirmé. C'est vrai que c'est un privilège pour CSP+, d'une part parce que pour pouvoir changer de vie, changer de métier, il faut avoir une certaine assise financière, des ressources financières, parfois bénéficier aussi d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement, avoir aussi le soutien de sa famille peut-être pour investir dans une nouvelle activité économique. mais il y a aussi une question de capital culturel, parce que il faut avoir un certain nombre de compétences pour naviguer dans les dispositifs de soutien à la création d'activités. Et puis également, il y a un certain nombre d'inhibitions qu'il faut pouvoir lever.
Mmh. Voilà. Les CSP+, que vous venez de citer, je le précise, hein, ce sont les catégories socio-professionnelles les plus élevées, pour lesquelles donc c'est plus facile effectivement de changer de vie. Alors quel serait le point commun, Axel, entre les hommes et les femmes que vous avez rencontrés pour ce dossier? Qu'est-ce qui les rassemble, d'après vous?
Ah bah alors, il y a une expression qui revient très très souvent, qui est celle de la quête de sens. C'est une expression un peu fourre-tout. Donc, il y en a qui vont rechercher plus de matérialité, du travail à la manuel, parce qu'ils en ont marre des interminables journées derrière un ordinateur. Et donc, du coup, ils veulent voir de manière, à la fin de la journée, le fruit de leur travail. Donc ça, il y a cette recherche, voilà, de travail manuel. Il y a aussi la volonté d'avoir un métier en accord avec ses convictions personnelles, peut-être une vie plus sobre, plus respectueuse de l'environnement, qui revient également.
Une envie de travail manuel, en effet, c'est le cas des deux copains comme cochons, ces deux ingénieurs reconvertis dans l'élevage de porcs en agroécologie. Quel est votre coup de cœur parmi ces profils de bifurqueurs et bifurqueuses?
Ah, c'est compliqué parce que c'est vraiment des trajectoires assez touchantes, parce que c'est des démarches très personnelles avec des histoires parfois douloureuses, mais c'est vrai que on est arrivé un jour d'été, mais qui ressemblait plus à un jour d'automne dans les monts d'Ardèche, où on a rencontré Ingrid et Jacques. Et Ingrid et Jacques, ils se sont installés pas très loin du puits, en Haute-Loire. Ils se sont installés avec des ânes. Jacques était dans une situation assez douloureuse, un burn-out. Il travaillait dans la traçabilité du bio. Il parcourait plus de 80 000 km par an en voiture. Il était jamais à la maison. Et puis, il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était l'argent qui guidait sa vie, mais qu'il était en train de mettre sa vie en l'air, sa santé aussi. Et il est tombé en burn-out, il était incapable de réaliser une addition à deux chiffres, c'était la catastrophe. Et puis Ingrid, sa compagne, elle travaillait, docteur en écologie, spécialiste de bioacoustique, elle travaillait dans l'effarouchement des oiseaux, donc elle travaillait principalement pour des parcs éoliens ou des aéroports. Et puis pareil, le plus vraiment de sens dans son travail. Pas en burn-out, mais bon, elle a décidé, à la faveur du Covid, elle a décidé de profiter d'un licenciement et puis de se lancer dans une activité autour des chevaux ou des ânes. Et finalement, tous les deux se sont mis à élever des ânes pour la randonnée. Et c'est vrai que quand on les a rencontrés au milieu de leurs ânes, ils respiraient le bonheur. On avait l'impression que voilà, tout le burn-out et des années de souffrance étaient bien, bien loin.
Quels sont les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui aurait envie de bifurquer, Axel?
Alors déjà, un premier conseil, ce serait de pas le faire pour l'argent, parce que tout le monde souligne que c'est très très souvent on perd du pouvoir d'achat, on perd de la rémunération dans ces bifurcations. Autre conseil qu'on pourrait donner, c'est celui de la formation, qui est essentielle, notamment pour... Alors il y a la formation technique, hein, aux nouveaux métiers qu'on souhaite aborder, mais il y a aussi une formation au territoire dans lequel on va s'insérer, savoir trouver les bons partenaires, s'intégrer dans un écosystème pour que justement l'activité qu'on souhaite créer ait plus de chances de durer. C'est vraiment les deux principaux conseils qu'on peut donner, si ce n'est aussi de persévérer dans son choix.
J'évoquais tout à l'heure ce photographe de mode devenu producteur de cidre. Ça, c'est pas banal, hein, comme parcours.
Oui, alors ça, c'est Marc, hein, qui était un photographe qui vivait à Paris, qui avait énormément, énormément de succès. On revient vraiment à la quête de sens, hein, parce que son travail lui rapportait beaucoup d'argent. Il travaillait beaucoup dans l'univers de la mode, un univers qui finalement... ne lui allait plus du tout pour des questions de déontologie. Il avait un peu l'impression de vendre sa conscience. Et du coup, il est parti du jour au lendemain. Il a quitté son activité pour s'installer en Bretagne et chercher une activité. Et puis finalement, il a trouvé une cidrerie à reprendre, pas très loin de Quiberon, dans le Morbihan. Et du coup, là, il a trouvé aussi l'épanouissement. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il cède cette cidrerie et à son tour, ce sont plutôt des bifurqueurs qui vont reprendre l'affaire.
L'heure de bifurquer, dossier à lire dans le magazine Village. Le numéro d'hiver est en kiosque. Merci beaucoup, Axel Puig.
Merci beaucoup, Dorothée.
Et à bientôt sur Inter.
À bientôt.